Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'Arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Au sommaire aujourd'hui, l'info du jour. Un mot sur l'appel du 18 juin, aujourd'hui commémoré par le président de la République Emmanuel Macron qui est en Bretagne. Deux interviews d'abord pour annoncer le 8e salon des expérimentations et innovations sociales à Rennes jeudi. Il y aura de la musique dont une nouveauté et puis un échange avec le comité rennais des soulèvements de la terre pour présenter un livre, Première secousse, c'est son titre. Et enfin des recommandations pour jeudi, un café diplo et du théâtre de rue. Bienvenue dans l'arène. C'est parti, on commence l'émission comme d'habitude avec l'info du jour, une choisie parmi d'autres dans la presse locale. Aujourd'hui, mardi 18 juin, c'est France Bleu Armorique qui invitait en studio un historien 84 ans après l'appel du général de Gaulle. Christian Boujard, il est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Bretagne Occidentale. Il est donc revenu sur ce jour historique lors duquel le général de Gaulle appelait la France libre à poursuivre le combat contre le Troisième Reich. Le maréchal Pétain vient à l'époque de devenir président du Conseil et les Allemands entrent dans Rennes puis Saint-Brieuc. Alors si le discours est très peu entendu lorsqu'il est diffusé à la BBC le 18 juin, il donne lieu à une version écrite dès le lendemain, un texte fondateur de la résistance française, et une version enregistrée de l'appel est ensuite rediffusée le 22 juin. C'est à ce moment que les habitants de l'île de Sein entendent le message. 129 habitants rejoignent la France libre, soit un quart de la population, et au-delà de cette île bretonne, ce sont 4000 habitants de la région qui vont répondre à l'appel du général de Gaulle. C'est la région qui a produit le plus de volontaires, explique l'historien Christian Boujard, 5 fois plus que la moyenne nationale. Alors ce mardi 18 juin, le président de la République Emmanuel Macron était sur l'île de Sein pour commémorer cet événement dans le cadre plus large des 80 ans de la libération. Une scène un brin surréaliste alors que l'extrême droite pourrait prendre la tête du gouvernement d'ici 3 semaines. Après cette info, on poursuit avec la première interview du jour. Lucille, Christian, Sarah Œuvrard et Marion Truel, bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Je vous présente Lucille, vous êtes chargée de projet à Ascoria, centre de formation au métier de l'intervention sociale et qui coordonne ce salon des expérimentations et innovations solidaires. Ça se déroule surtout sur la journée du jeudi 20 juin à Rennes, on va annoncer le programme. Sarah et Marion, vous serez présentes justement sur cet événement avec un jeu que vous avez créé dans le cadre de vos études. On va le présenter dans un instant. Tout d'abord, Ascoria, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est donc un centre de formation, installée en tout cas pour le site rennais dans le quartier Beauregard, mais qu'on retrouve ailleurs en Bretagne.
Oui, absolument. Nous avons 5 campus au total, dont celui de Rennes, mais nous sommes également présents dans le Finistère, à Morlaix, à Saint-Brieuc, à Vannes, ainsi qu'à Lorient.
Il y a de nombreuses formations qui y sont proposées. Elles ont tout en commun de toucher de près ou de loin, on va dire, aux solidarités.
Exactement. C'est vrai que notre cœur de métier, ça va être les formations dans le médico-social, avec les formations comme éducateur, éducatrice spécialisée ou assistant, assistant de service social. Mais nous formons à plus de 30 diplômes et nous avons récemment, par exemple, sorti un diplôme qui forme au métier de technicien valoriste du réemploi, ce qui élargit un petit peu notre secteur d'activité à l'économie sociale et solidaire.
Alors le salon des expérimentations et innovations solidaires qu'on annonce, le CEIS, c'est un événement qui a déjà 7 éditions derrière lui. L'idée c'est quoi? C'est justement d'ouvrir les réflexions qui sont menées dans le centre de formation au grand public, de sortir un peu de ce public étudiant qui les connaît bien.
Oui, absolument. Il y a plusieurs intérêts en fait à cet événement-là qui est porté par Ascoria en effet depuis 2016. D'une part, c'est en effet de permettre à nos étudiants de découvrir tout simplement des projets d'innovation et d'expérimentation dans le des solidarités, puisque c'est potentiellement des choses vers lesquelles ils vont être amenés à travailler plus tard. Et c'est également pour nous important de mettre en lumière et de mettre en réseau tous ces projets-là qui ne sont pas forcément très connus, mais qui pour autant apportent énormément en termes de pratiques professionnelles et même de curiosité citoyenne sur nos territoires.
L'événement, il existe depuis 2016, ça fait plusieurs éditions qu'il se déroule sous la forme d'une grosse journée qui se déroule sur le campus des Solidarités, mais avec en amont une soirée de lancement, on va y arriver. Il y a quel public qui vient? Ça va crescendo avec les années, l'événement est de mieux en mieux identifié.
Alors forcément, on a eu des années un petit peu compliquées avec le Covid, puisqu'on a dû limiter les jauges, tout simplement. C'est vrai qu'en général, on accueille environ 2500 à 2500 personnes sur la journée. On a bien évidemment une grosse partie qui sont des personnes qui sont en formation à Ascoria, puisque voilà, c'est une partie intégrante de leur formation. Mais nous avons également beaucoup de professionnels qui sont intéressés pour venir justement s'ouvrir à de nouvelles pratiques, à de nouvelles rencontres, venir développer leur réseau. Et donc en fait, on a, voilà, c'est vraiment ces deux publics-là. Mais c'est un événement qui est ouvert au grand public. Donc j'ai envie de dire, toute personne intéressée est la bienvenue, qu'elle soit en lien professionnel ou pas avec les solidarités. Ça peut être une simple curiosité et on accueille toute personne avec plaisir, et y compris par exemple des étudiants aussi d'autres centres de formation.
Donc la grosse journée du Salon des expérimentations et innovations solidaires, c'est jeudi 20 juin de 9h30 à 17h sur le campus des Solidarités. On est dans le quartier Borgard ici à Rennes. Il y a quand même juste avant cette soirée de lancement à vivre dès le mercredi soir. Ça affiche complet, mais parfois il y a des désistements, donc on peut quand même en dire un mot. C'est le fruit d'un travail entre une compagnie de théâtre, je crois que vous avez déjà fait intervenir sur des éditions précédentes, et puis des jeunes qui sont accompagnés dans des ITEP.
Oui, tout à fait. Donc c'est un projet en fait qui est un projet de formation de trois étudiantes qui sont actuellement en formation à Ascoria. Et donc en effet, leur projet, c'est de monter une pièce de théâtre avec une compagnie de théâtre, mais également avec des jeunes qui sont accompagnés en ITEP. Et donc cette année, la pièce de théâtre s'appelle « Tomber ». Donc la thématique, c'est la chute, comment on se relève. Donc il y a toute une exploration en fait autour de cette thématique-là, autour de ce fil rouge, avec un gros travail mené par la compagnie. C'est un travail de plusieurs mois, hein, puisque du coup le projet s'est lancé fin 2023 avec des répétitions régulières. Et en effet, la soirée affiche complet, elle est accueillie au tambour, mais s'il y a quelques places qui seront disponibles, et pour ça il faut pas hésiter à se rendre sur le site Campus des Solidarités. Il y a une page CI8 et donc avec un lien vers l'inscription à la soirée pour vérifier s'il reste quelques places.
Tomber, c'est le nom de la pièce qui sera présentée avec la compagnie La Morsure et puis des jeunes d'ITEP, ces instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques. C'est à voir le 19 juin à partir de 20h au tambour. Le mot tomber, donc, il parle d'un trébuchement, d'un affaissement, voire d'une disparition. Nous l'associons à une horizontalité plutôt qu'à une position où l'on se tient droit debout. Mais que dire alors de tomber amoureux, tomber du ciel, faire tomber les murs ou de faire tomber l'adversaire? Que penser encore de la tombée de la nuit qui ouvre de nouveaux possibles? Et enfin, si l'on ne tombe jamais, comment se relever? Une présentation là, de cette pièce de théâtre qui a presque quelques échos un peu politiques en ce moment. C'est donc à découvrir jeudi 20 juin à Rennes. Et on arrive au programme du Salon des expérimentations et innovations solidaires. Rendez-vous sur le campus des Solidarités dans le quartier Borgard à Rennes. C'est le jeudi toute la journée, donc de 9h30 à 17h. Combien d'acteurs seront mobilisés durant cette journée? Ils sont nombreux. Il y a à la fois des associations, pour certaines bien connues, d'autres que j'ai découvertes sur le programme, et puis aussi des institutions.
Oui, la particularité du CI, c'est vraiment d'accueillir des structures dans leur diversité, d'accueillir des projets dans leur diversité, que ce soit des diversités de taille, de portage. Donc en effet, on accueille aussi bien des entreprises que des associations, que des collectivités ou des collectifs citoyens ou même des projets étudiants. Il y en a un certain nombre qui sont programmés cette année au salon. Et donc on accueille environ 60 structures. Sur cette journée-là, sur des formats qui sont très divers. Donc on a aussi bien des formats assez classiques qui sont liés au format salon, des stands, des conférences, mais on a aussi des ateliers. Et par atelier, on entend des choses qui sont très très variées. Comme par exemple, cette année, on a une association qui s'appelle Utopie Arbre, qui vient nous faire découvrir la grimpe d'arbre, une activité accessible aux personnes en situation de handicap. Et donc, on va monter une espèce de parcours dans les arbres d'Ascoria, un parcours éphémère sur cette journée-là. Mais on a aussi d'autres ateliers très variés. Je pense notamment à My Human Kit, qui est une association qui va nous proposer de participer à un entraînement pour le cibathlon. Alors, le cibathlon, c'est une compétition internationale où l'on réalise des épreuves de la vie quotidienne avec une prothèse. Et donc on va suivre en fait les différents, différentes étapes pour s'entraîner à cette compétition-là avec donc Nicolas de My Human Kit.
Sur place aussi, j'ai noté des expositions. On retrouvera notamment La Cloche, association qui fait du lien entre des personnes qui vivent à la rue, des habitants d'un même quartier. C'est l'une des deux expositions qui sera proposée.
Absolument. Donc l'exposition de La Cloche s'appelle « Nos amis les bêtes, ces vedettes ». Et donc l'objectif était de mettre en avant justement les relations entre les personnes en situation de précarité, en particulier celles qui sont sans domicile, et leurs animaux. Et donc de mettre en avant justement toute cette beauté de la relation, et puis avec des témoignages en fait qui expliquent un petit peu la réalité aussi de vivre dans cette situation là avec des animaux. Et l'autre exposition donc a été proposée par la Ligue des droits de l'homme Quimper. Et c'est une exposition qui s'appelle « La beauté de l'euphorie de genre » et donc qui vise justement à mettre en avant le bien-être des personnes qui ont effectué des transitions de genre.
On découvrira les photos de Maxence, donc toujours sur le campus des Solidarités à Rennes. J'ai aussi noté des plateaux radio, notamment un qui sera animé par une radio autogérée qui s'appelle Radio Exil. Et puis, vous l'avez dit, un sacré programme de conférences, une vingtaine qui aborderont des sujets très divers. Ça va de la santé à l'économie, en passant par la culture aussi pour certains sujets. L'idée, c'est de venir librement, sans réservation, et pourquoi pas d'en assister à une ou plusieurs durant la journée.
Absolument, c'est une journée qui est vraiment sans réservation, y compris pour les ateliers. Donc, il faut se présenter en fait à l'heure et au lieu indiqué sur le programme pour pouvoir participer à ces différents formats. Certains ont des jauges, donc voilà, il y a aussi ça à prendre en compte. Mais en effet, c'est vraiment une journée libre. Donc, on construit son programme comme on le souhaite, sur les thématiques qu'on souhaite. Et pour cela, nous avons glisser dans la programmation justement aussi des parcours thématiques. Si on a envie de s'intéresser plus ou moins voilà, une thématique, il y en a 5 qui sont proposés. Donc le premier étant accès aux droits et liens sociaux, le second enfance et jeunesse, le troisième engagement et entrepreneuriat, et les deux derniers personnes âgées ou en situation de handicap, et enfin recherche, culture et jeux, ce qui permet voilà, de préparer son programme de visite au mieux.
Pour s'y retrouver, puisqu'il y a beaucoup de choses, on le dit tout de suite, le mieux c'est d'aller retrouver le programme en ligne sur le site ascoria.eu. Les conférences, c'est plutôt pour cogiter et s'informer, et les ateliers pour se mettre en mouvement. Vous l'avez dit, donc ce sont près de 15 ateliers qui seront proposés, du yoga adapté, de la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une fresque des possibles, ou encore de la robotique, la grimpe d'arbres, vous l'avez déjà mis en lumière, et toujours lors de cette journée, un espace jeu, c'est là où on vous retrouvera, Sarah et Marion, avec votre entreprise qui s'appelle Souviens-toi de, c'est le nom de l'entreprise. Vous avez créé un jeu en fait dans le cadre de vos études. Comment est né ce projet ?
Exactement. Alors, Souviens-toi d'eux est né lorsqu'on était étudiante. Alors, ça remonte à pas si longtemps. C'était il y a 2 ans où Sarah et moi, on s'est rencontrés durant l'obtention de notre master commerce et entrepreneuriat à Rennes. Et en fait, notre école organise chaque année un concours de création d'entreprise qui s'étend sur 6 mois, auquel on y a participé. Les choses sont allées assez vite pour nous parce qu'à l'échelle de Rennes, on a remporté la première place, ce qui nous a automatiquement qualifiés pour la grande finale nationale où notre école est implantée dans 17 grandes villes françaises. Et lors de cette grande finale nationale, face à 400 projets, nous avons également remporté la première place. On a eu énormément de retours positifs sur le jeu, on était persuadés qu'il avait du sens. Et à la fin de nos alternances et de nos études en août dernier, on a décidé de se lancer dans cette grande aventure et de créer ce jeu.
Ce jeu s'appelle La vie en souvenir. Il est né tout simplement de notre histoire personnelle, puisque respectivement, on a toutes les deux connu l'accompagnement d'un proche touché par la maladie d'Alzheimer. On a été témoins du déclin de leurs fonctions cognitives, donc des premiers troubles de la mémoire jusqu'à l'installation de la maladie. Et on avait vraiment besoin finalement d'un outil pour appréhender nos visites, parce que c'est pas évident d'aller voir quelqu'un qui nous ne reconnaît pas. Il nous manquait vraiment cette chose pour maintenir le lien avec notre proche, et on est parti sur le jeu qui offre un moment convivial et apaisant. Et pour vraiment l'adapter justement aux troubles cognitifs, on a rencontré des spécialistes de santé, des gériatres, des ergothérapeutes, des psychologues, pour vraiment adapter en plus cet outil aux troubles cognitifs au sens large et au type de dégénérescence qui peuvent être liées à l'âge.
Donc la vie en souvenir, c'est le nom du jeu, c'est à la fois presque un outil de médiation sociale pour créer du lien, mais aussi pour stimuler la mémoire donc de personnes qui souffrent de maladies neuro-évolutives. Vous avez amené un exemplaire du jeu en studio, comment est-ce qu'on peut le décrire aux auditeurs ?
Alors le jeu La vie en souvenir, on va retrouver un plateau de jeu qui a la forme d'une fleur avec 4 pions et un dé. Dans ce jeu, les règles sont très simples, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. L'objectif c'est vraiment d'échanger et de communiquer avec ses proches. On va retrouver 2 types de cases, les cases photos et les cases anecdotes qui correspondent à 2 types de cartes, les cartes photos et les cartes anecdotes. Pour les cartes photos, on propose 2 versions de jeu. Une version personnalisable, où là on va pouvoir justement mettre ses plus beaux souvenirs, ses photos d'albums photos dans le jeu et avoir vraiment un jeu unique, propre à ses souvenirs. Et une version plutôt classique, où là c'est des photos qui vont faire écho à des époques, notamment les années 40-50, 60, 70 et enfin 80, 90, on va retrouver des objets, des personnages emblématiques ou des événements marquants de cette époque. Et on va retrouver également un thème qui s'intitule « Les moments forts de la vie » qui vont faire écho à la naissance, à l'adolescence, au mariage, à différents événements, afin vraiment de dialoguer.
Et puis les cartes anecdotes, là c'est plutôt un système de questions qui propose un échange autour de différentes thématiques. Là on a plusieurs thèmes aussi, le thème personnel, animaux, voyage, famille, enfance, amour, métier. L'idée c'est vraiment que chacun puisse choisir son jeu en fonction de ses expériences de vie et son passé.
Ce jeu, il est fabriqué en France, même 100% brétilien, vous me le disiez avant de commencer, puisqu'il est conçu en ESAT, c'est ça, dans ces établissements qui accueillent, accompagnent des travailleurs en situation de handicap.
Exactement, donc on collabore avec l'ESAT Utopie, situé à l'Ermitage. C'est un partenariat où on est très fiers et qui repose sur nos valeurs, l'humain et la proximité. On est très fiers d'avoir un jeu 100% brétilien où tous nos partenaires sont locaux.
Ce jeu, il est à la fois à la destination d'établissements, de professionnels de santé, mais aussi de particuliers qui seraient intéressés. Le tarif varie selon la version du jeu entre 65 et 75 euros. Il en est où dans son parcours de vie, ce jeu? Pour le moment, vous en êtes où? Il a été édité à combien d'exemplaires?
Alors, le jeu, il est accessible depuis début février directement sur notre site internet souviens-toi2.fr. Donc, tout le monde a la possibilité de pouvoir l'obtenir. Et puis, alors on a du stock, donc ne vous privez pas, on est prête. Et puis, l'idée de ce jeu, c'est vraiment de pouvoir le faire vivre dans le temps. Donc, on propose aussi les extensions de jeu si vous voulez obtenir de nouveaux thèmes de cartes photo ou alors ajouter de nouveaux événements dans votre jeu sur les cartes photos qui sont personnalisées, peut-être des nouvelles naissances, des albums photos retrouvés.
Donc c'est vrai que depuis qu'on est commercialisé, le jeu évolue, notamment avec la version classique qu'on a sortie il y a quelques mois, qui fonctionne très bien, notamment dans les établissements. Et au fur et à mesure des retours des clients qu'on a, on se rend compte effectivement qu'il est... Alors nous, on l'a parfaitement adapté aux troubles cognitifs, au sens large, hein, notamment la maladie d'Alzheimer, mais il s'adapte aussi bien à des personnes qui ont connu des chocs émotionnels. Ça peut être des accidents de la route, des AVC qui sont hospitalisés, ou même certaines personnes en situation de handicap, car c'est un vrai outil de communication et de stimulation de la mémoire, et c'est vraiment chouette de voir tous ces retours de nos clients pour l'adapter au mieux.
Dernière question, est-ce que vous auriez un souvenir peut-être d'une scène, d'un moment où vous avez vu une personne, un patient s'emparer de ce jeu et où ça a pu créer un déclic ou créer un moment qui vous a marqué?
Oui, alors c'était pendant nos phases de test, parce qu'on a beaucoup testé ce jeu. On avait une femme qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui n'avait jamais reparlé de son défunt mari auprès de sa fille. Et en fait, sa fille avait personnalisé une carte photo avec une photo de son défunt mari. Et en fait, elle en a parlé pour la première fois auprès de sa fille en se remémorant ses beaux yeux bleus. C'est une scène qui nous a beaucoup touchés. Et on a lu l'émotion dans les yeux de sa fille et elle nous a remerciés derrière. Donc on est très fiers de ce moment-là et c'est vraiment ça qu'on veut faire partager auprès de tout le monde.
La vie en souvenir, c'est donc un jeu que le public du CEIS, le Salon des Expérimentations et Innovations Solidaires, pourra découvrir et tester donc jeudi 20 juin. On vous représente toutes les trois, donc Lucille Christian, chargée de projet à Ascoria, ce centre de formation au métier de l'intervention sociale qui coordonne l'événement qu'on annonce. C'est surtout jeudi 20 juin à Rennes de 9h30 à 17h dans le quartier Beauregard à Rennes. Et Sarah et Marion, on vous retrouvera donc avec ce jeu que vous nous avez présenté, La vie en souvenir. Vous serez présente dans l'espace jeu de l'événement. Le programme complet, il est à retrouver en ligne sur ascoria.eu et on le redit, l'entrée est libre pour découvrir tout un tas d'expérimentations, d'innovations sur la journée de jeudi. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
von mir träume, werd ich wach.
Ed et Decker sur Canal B avec le titre « Il meurt » dans une version remixée. C'était le choix musical de Lucille d'Ascoria, ce centre de formation dont on vient de parler dans une interview, puisqu'il organise le CEIS, le Salon des expérimentations et innovations sociales. C'est à vivre en fin de semaine dans le quartier Bourgard à Rennes. Vous êtes toujours dans la Rennes, l'émission d'information locale de Canal B, un programme qui vous tend son micro si vous avez des actions ou événements à évoquer auprès des auditeurs, qu'il s'agisse de lutte environnementale, sociale, de vie étudiante ou rurale, pourquoi pas d'action culturelle, que ce soit avec votre association, votre collectif ou pourquoi pas une institution. Vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr et je reprends contact avec vous ensuite pour vous proposer un échange ici en studio, pourquoi pas un reportage sur le terrain. Et on peut aussi l'évoquer plus brièvement sous forme de recommandations. L'émission d'info, elle continue avec une deuxième interview. Anna et Jules, bonjour.
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 Je vous présente, vous faites partie du comité rennais des soulèvements de la terre, ce mouvement donc engagé dans les luttes environnementales, et je vous reçois aujourd'hui pour parler d'un livre et d'une tribune. Et on va commencer par représenter ce comité local qui soutient donc les soulèvements de la terre, qui est devenu surtout plus visible après la mobilisation contre les méga-bassines à Sainte-Soline, c'était au printemps 2023. Le comité, il a été créé avant ça, c'était en 2022.
Il s'est créé dans le but de ancrer le mouvement de plus localement à plein d'endroits. Et en fait, le comité rennais, ça a été le premier, mais c'est aussi ce comité-là qui a fait l'appel à ce qu'il y ait des comités locaux qui se créent partout en France, ce qui a été le cas en printemps 2023.
Et donc aujourd'hui, il y en a au moins 150 des comités locaux ailleurs sur le territoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le mouvement dans votre parcours de vie ?
Je pense que justement la force des saisons des soulèvements de la terre, c'est notamment les grands actes. Et moi personnellement, par exemple, c'est les actes autour des méga-bassines, parce que c'est vraiment justement quelque chose de... on parlait juste avant de la puissance du collectif. Il y a un truc très très porteur dans la lutte contre les méga-bassines, justement par le désarmement, mais par aussi juste la fête aussi, tous ensemble. Il y a plein d'aspects de la lutte qui sont très très porteurs, quoi. Et voilà, en fait ça suffit simplement à avoir envie d'aller plus loin et de s'engager aussi localement dans les comités locaux.
Alors j'étais venue il y a un an en reportage lors d'un meeting, c'était présenté comme ça, cet événement, justement après la mobilisation à Sainte-Soline, fortement réprimée par les forces de l'ordre, et puis dans la foulée il y avait eu l'annonce d'une dissolution par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Vous êtes arrivé quand dans le comité rennais ?
Ben moi je suis arrivée en décembre 2023, donc j'étais là le printemps dernier pour ce meeting. Ouais.
Ouais, à peu près, ouais, on va dire dans les mêmes eaux. Ouais.
Fin 2023.
Ouais, carrément.
Il faut peut-être dire qui on y trouve dans ce comité rennais, puisqu'il y a des organisations qui s'y sont joints de différentes formes, des associations, des syndicats et puis des citoyens. Vous êtes combien aujourd'hui ?
On est une bonne trentaine à vraiment faire vivre le comité au quotidien. On est quand même plutôt un collectif, donc les gens ils viennent là en tant que
individu, ouais.
En tant qu'individu, enfin, et pas forcément en tant que membre d'une organisation. Mais c'est vrai que comme à beaucoup d'endroits, les gens ils ont souvent plusieurs casquettes, mais on est quand même plutôt un collectif en tant que tel.
Donc on y retrouve des gens de la Confédération paysanne d'Ille-et-Vilaine, également des gens de chez Solidaire, je crois, des jeunes issus des mouvements pour le climat. Il y avait la CIMAD aussi, qui était à l'époque remontée contre la loi immigration. Il s'est passé quoi, là, depuis ce reportage, en un an, pour vous quelle est la vie, finalement, du comité rennais des soulèvements de la terre? Vous soutenez des mobilisations ailleurs en France, et puis vous organisez des choses ici?
J'ai l'impression que un peu tout a changé. Moi, je suis arrivé vraiment dans cette période-là, je dirais. Et effectivement, rien que la façon de fonctionner, le fait que aussi au niveau national, il y a une grosse prise en compte de tous ces comités locaux qui se sont créés. En fait, il a fallu un peu tout réinventer, quoi.
Oui, c'est ça. Et du coup, ce qu'on fait, c'est de mobiliser localement pour aller sur les grandes mobilisations, sur les grands actes des soulèvements, comme on appelle, qui ont lieu plusieurs fois par saison. Et on fait des réunions publiques, on organise des covoiturages, on y va ensemble. Et à côté de ça, on a tout un engagement plus local qui est à la fois d'aller soutenir des luttes locales contre des projets comme par exemple, là, le week-end dernier, on était au Grand Auvernais contre un projet de carrière qui va artificialiser 56 hectares de terres agricoles. Et aussi, on a lancé les greniers des soulèvements de la terre cette année.
Oui.
Et l'idée, c'est qu'on cultive en commun une parcelle à la ferme en cavale pour produire des légumes pour les mobilisations des soulèvements. Et il y a aussi à chaque fois un temps de discussion à la suite des chantiers qu'on fait une fois par mois.
Donc des greniers des soulèvements, il y en a 12 je crois en tout, on en trouve du côté de Nantes, Chinon, Quimper et donc Rennes, ou plus précisément Vezin-le-Coquet, et on peut déjà annoncer qu'il y aura donc un prochain chantier maraîchage dimanche 23 juin, où par ailleurs vous présenterez l'ouvrage... Pardon ?
À 10h.
À 10h, comme ça l'horaire est donné, et où vous présenterez également l'ouvrage dont on va parler dans un instant. Vous évoquiez des grands actes, il faut redire quels sont les projets qui vous mobilisent sur le territoire français. Évidemment, l'opposition au projet d'autoroute A64 entre Toulouse et Castres, les méga-bassines dans le Poitou, j'en oublie.
Eh ben, ce printemps, on est allé du côté de la région parisienne, dans le nord du 93, contre un entrepôt logistique, Green Dock, qui a pour but de transférer le fret routier sur la Seine. Mais en fait, ça va plutôt augmenter le trafic routier et ça pousse à la construction d'un énorme canal Seine-Nord-Europe, qui relierait la Seine au nord de l'Europe. Et on a aussi été, toujours pour une question de bassine, dans la plaine de la Limagne, à côté de Clermont-Ferrand, où il y a l'Imagrin, qui est un énorme semencier de maïs, qui prévoit de construire c'est même plus une méga-bassine, c'est une giga-bassine pour arroser ses plants de maïs.
Et donc, à quoi ressemblent ces convois quand vous vous rendez sur des lieux qui sont loin de Rennes? Ça se déroule dans quelle ambiance? C'est quand même engageant de rejoindre ces mobilisations.
Oui,
on les fait peut-être pas toutes, on les choisit.
Oui, c'est ça. Surtout quand il faut traverser la France, c'est vrai que c'est plus simple d'aller dans les mobilisations qui sont plus proches. Parce que mine de rien, comme toujours, je pense, dans la lutte, ça représente toujours un coût rien que pour se déplacer. Et même si on trouve des moyens de se financer sur ces choses-là, ça reste quand même... Et puis ça demande aussi du temps, un engagement humain, et c'est de la fatigue physique qui se rajoute simplement au fur et à mesure du temps, quoi.
Mais en même temps, c'est aussi un super moyen de se rencontrer. Souvent, on est une dizaine ou une quinzaine à y aller. Souvent on campe tous ensemble, et puis c'est des manifestations qui souvent sont joyeuses mais aussi assez intenses, et du coup c'est toujours des belles expériences à aller voir comment ça se passe ailleurs.
Alors si je vous reçois aujourd'hui, c'est aussi pour parler d'un livre. Il sera présenté lors d'une rencontre mercredi 19 juin. Rendez-vous donc au Jeu de Paume en plein cœur de Rennes à partir de 18h. C'est organisé en partenariat avec la librairie Planet.io qui est juste en face du Jeu de Paume. Première secousse, c'est le titre de l'ouvrage dont on parle, qui est sorti aux éditions La Fabrique au mois d'avril, et donc écrit, j'imagine, à plusieurs mains par des personnes des soulèvements de la terre. Et d'où sort cette idée d'écrire un livre?
C'est déjà le besoin de faire un bilan aussi sur les 3 ans passés de lutte depuis la création en janvier 2021, et puis aussi parler un peu des positions des soulèvements de la terre, de la manière dont les soulèvements essaient de fonctionner, des hypothèses aussi que le mouvement pose en fait sur l'état des luttes écologistes et des luttes en général en France aujourd'hui, et même dans le monde plus largement. Mais
est-ce qu'il y a des gens à Rennes qui ont participé à l'écriture ou pas forcément?
Eh ben, c'est des gens qui sont impliqués au niveau national du mouvement qui ont participé à l'écriture. Et oui, il y a des gens de Rennes qui ont participé au processus d'écriture, pas forcément à la rédaction en tant que telle, mais en fait c'est quand même Je crois que dans le livre, c'est écrit qu'il y a une dizaine de personnes qui ont réellement rédigé, mais en fait, ensuite, il y a eu vraiment beaucoup de lectures, de relectures à nombreux et nombreuses, donc oui.
Cet ouvrage, donc de plus de 200 pages, il est construit en quatre parties: désarmer le béton, démanteler le complexe agro-industriel, reprendre les terres et bâtir une organisation pas à pas, une façon de structurer la pensée de ce mouvement, des soulèvements de la terre. Il y a peut-être des auditeurs qui sont peut-être pas très friands de radicalité et qui nous écoutent. Moi, je voulais vous poser une question à destination de ces auditeurs-là pour... communiquer, essayer de faire du lien. Comment est-ce que vous expliqueriez le choix de la désobéissance civile ? Certains diraient que si chacun, au nom de ce qu'il estime juste, optait pour le blocage, ce serait un peu le bordel. C'est peut-être déjà le bordel.
Et ben, en fait, j'ai l'impression que ça part du constat que si on a envie de stopper le ravage en cours, il faut pouvoir le faire réellement. Et que c'est aussi ça qui fait que les gens ils viennent et ils reviennent aux manifestations des soulèvements de la terre, c'est par cette impression à la fin de la manifestation d'avoir réellement fait quelque chose. Et c'est pour ça que au soulèvement de la terre, on a trois modes d'action qui sont le blocage, l'occupation ou le désarmement. Autant les deux premiers, c'est assez clair. Le troisième, ça nécessite peut-être un peu plus d'explications. C'est, quand on dit désarmement, en fait, c'est qu'on considère qu'il y a des armes qui ravagent le monde dans lequel on vit et que du coup, il faut désarmer ça. Mais en fait, c'est aussi une autre manière de parler de sabotage. Voilà. Et c'est très bien expliqué dans le livre, le lien entre sabotage et désarmement.
Moi, je pense qu'il y a aussi un aspect qui est évoqué d'ailleurs dans le livre, plutôt dans la partie organisation à la fin, qui est autour de la composition, et pour expliquer un peu la manière dont en fait les soulèvements essaient de construire leur lutte, c'est aussi en partant déjà de l'échelle locale et du coup essayer de construire avec des désirs politiques qui sont parfois antagonistes, enfin pas forcément antagonistes, mais qui en tout cas peuvent par exemple ne pas se rejoindre sur tous les aspects. Et je pense que le fait qu'il y ait une discussion un peu constante et des allées et venues en permanence entre les désirs en termes de stratégie et de moyens de la lutte font que, justement, je pense qu'il y a, une forme, je ne sais pas si on peut dire une forme de démocratie, mais en tout cas, il y a toujours une forme de dialogue qui fait qu'on n'est pas sur une posture de « nous savons quelles sont les luttes qu'il faut mener et on vous dit c'est ça et il faut y aller ».
Il y a de la remise en question.
Oui. Enfin, je pense, hein, je trouve complètement que ça fait partie de l'ADN.
Mais d'ailleurs, je trouve qu'on le voit même dans le livre où, en fait, chaque partie, il y a une partie hypothèse, une partie position politique et il y a une partie paradoxe. Et moi, je trouve que les parties paradoxes, en tout cas, elles sont vraiment intéressantes parce que c'est justement des parties de remise en question où, en fait, on dit, on fait ça, mais en fait, ça nous met souvent dans des impasses et ça nous oblige à penser les choses différemment. Et je trouve que tout au long du livre, il n'y a pas tellement de moments où ça dit c'est absolument comme ça qu'il faut faire. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont appelées des hypothèses, c'est que c'est des tentatives et que c'est ça qui fait aussi la force des soulèvements. C'est de faire et de penser à partir de ce qu'on fait et pas de penser dans l'absolu.
Le moment là où on se parle, il se trouve que, alors on a parlé de votre projet qui s'inscrit dans les luttes environnementales, il y a quand même cette actualité menaçante qui plane particulièrement cette semaine pour les militants écologistes. Les élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains, elles pourraient voir arriver le Rassemblement national à la tête d'un gouvernement. Les soulèvements de la Terre ont donc publié un communiqué dans ce contexte, à l'image d'autres organisations qu'ils font en ce moment, de façon parfois collaborative, pour un soulèvement antifasciste, c'est à lire sur... entre autres Mediapart, Expansive et puis sur le site internet des soulèvements de la Terre. Dans ce texte, les soulèvements de la Terre appellent à voter, certes, mais pas que. Il y a déjà une projection sur le 8 juillet qui nous attend. Je voulais vous demander, vous, comment vous vivez ce moment politique un peu inédit du point de vue de militants écologistes ?
Eh bien, c'est sûr que c'est une situation qui est très inquiétante. Oui. Je pense, au-delà du fait d'être des militants écologistes, du simple fait déjà d'être des militants et militantes, mais aussi, par exemple, d'être une femme pour toutes les personnes non blanches et tout ça, enfin, c'est sûr que c'est une situation qui est très inquiétante. Dans le texte, ce qui est dit, c'est... que oui, en fait, c'est très bien si les gens y vont voter, mais que nous, on se place pas à cet endroit-là, quoi. C'est pas notre rôle de participer aux élections, de faire campagne. Mais ce qu'on dit, c'est que si c'est le Rassemblement National ou les macronistes qui prennent le pouvoir ou qui reprennent le pouvoir en juillet, là, il y a un appel à bloquer le pays et à se dire que en fait, on sera ingouvernable et que c'est pas possible d'être gouverné par des fascistes. Et il y a aussi un début d'appel à réfléchir à aller s'attaquer à des cibles qui représentent ce fascisme-là. Et du coup, là, on le voit très bien dans les médias, ça sort tous les jours de Bolloré qui magouille dans son coin pour faire des alliances entre les Républicains, le RN et tout ça.
Qui se trouve être breton, au passage.
Voilà. Et du coup, de commencer à réfléchir à des actions qui puissent impacter l'empire de Bolloré.
Il est notamment question donc de faire campagne contre Bolloré, milliardaire bien connu à la tête notamment de groupes de presse. Mais on y lit aussi des projets de blocage qui viseraient les Jeux Olympiques à venir, ou encore d'un rendez-vous donné cette fois sur un village de l'eau contre les méga-bassines. Ce sera du 16 au 21 juillet dans le Poitou. Juste pour expliquer un peu plus aux auditeurs, vous parlez de fascisme. Ce qu'on comprend en lisant ce communiqué des soulèvements de la Terre, c'est un continuum, on va dire, dans le fascisme, avec une porosité entre aujourd'hui les différentes couleurs de la droite de Renaissance jusqu'au Rassemblement National. Anna et Jules, vous êtes membre du comité rennais des soulèvements de la Terre, ce mouvement qui est engagé dans les luttes environnementales. On vous retrouve au Jeu de Paume, mercredi 19 juin à partir de 18h pour présenter le livre « Première secousse ». Et puis pour continuer à suivre les soulèvements de la Terre, il y a à la fois un site internet et vous êtes aussi présent avec le comité rennais sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.
quelqu'un.
Irny Nimons avec le titre « T'as pas peur » sur Canal B. C'est une nouveauté musicale qui a été présélectionnée par Yann Barbotin, notre programmateur à la radio, et qu'on retrouve sur l'album « Une habitante touchée par une météorite ». C'est sorti le 26 avril dernier chez Another Records, 10 titres en tout, qui forment le premier disque pour ce quatuor lyonnais. Vous venez de les entendre sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale. Elle s'écoute, cette émission, du lundi au vendredi à partir de 17h, en tout cas jusqu'à la fin du mois de juin. Il nous reste encore quelques émissions à passer ensemble sur le 94.0, mais aussi en ligne sur canalb.fr, un site où vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts des émissions réalisées par des salariés, mais aussi de nombreux bénévoles, puisque Canal B est une association. On termine avec la recommandation du jour. Et oui, à chaque fois en fin d'émission, quelques conseils modestes d'événements à vivre dans la région rennaise, parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou encore de documentaire. Aujourd'hui, on annonce deux rendez-vous à vivre mercredi 19 juin. D'abord à 18h45 à l'auditorium de la Maison Internationale de Rennes, où les amis du Monde Diplo organisent leur dernier café Diplo de la saison. Pourquoi tant de votes d'extrême droite en France et en Europe? C'est la question qui nous obsède en ce moment et qui sera explorée avec Willy Pelletier. Il est sociologue à l'université de Picardie et a publié en 2023 avec Gérard Moget « Pourquoi tant de votes RN dans les classes populaires ?» Alors, petit avant-goût des discussions, plutôt que d'un électorat, il faut parler d'un conglomérat électoral où se trouvent des populations qui investissent sur le vote Le Pen des aspirations très différentes. Il y a des petits patrons qui sont enclins à une poigne de fer et qui veulent supprimer les cotisations sociales, mais aussi en milieu populaire, un certain nombre de salariés et ouvriers pour qui il est hors de question que ces aides qui leur permettent de subsister soient rognées. L'enjeu pour eux, c'est qu'ils se les réservent. Alors ce n'est pas un vote de déclassement, mais plutôt une somme de colères très diverses. Deuxième événement à vivre mercredi 19, mais aussi jeudi 20 juin, à chaque fois à 20h sur la place Hoche à Rennes, c'est Quas Beans, une création de la compagnie Pulsion Publique, sous forme de bouffonnerie dansée, un western spaghetti sauce danse contemporaine. Face au public, il y aura deux artistes rennaises, Leïna Fischbeck et Jeanne Horcher, qui imagineront la rencontre de Jeanne d'Arc et Calamity Jane, deux cavalières guerrières au destin tragique, deux femmes aux prises avec leur époque, leur engagement, leur genre, leur croyance et leur folie, embarquées par la grande histoire malgré elles, récupérées, utilisées, des personnages à la fois admirables et détestables, reflets de nos nations avec lesquelles on bouffonne et poétise. L'Arène, c'est terminé. Une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.